Aujourd'hui, nous sommes avec Annick Le Guerrer, qui est anthropologue et philosophe, pour parler de son dernier ouvrage, Le parfum des origines à nos jours, qui est paru aux éditions Odile Jacob. Ensuite, Audrey Schmitt recevra Evelyne Castellino pour parler de sa mise en scène de Robin des Bois, qui est actuellement au théâtre Amstramgram. Mais tout d'abord, nous allons voir l'histoire du parfum avec Annick Le Guerrer. Bonjour.
Bonjour.
L'année dernière, nous avions abordé le parfum sous un angle beaucoup plus philosophique. Enfin, bien sûr que dans cette histoire, vous retracez aussi la partie philosophique qui est attachée au parfum. Si l'on peut dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre les premiers usages du parfum qui étaient intimement liés au sacré? Et aujourd'hui, il serait sur un autre piédestal par la publicité, sacré mais par la publicité.
Ah, ça c'est une bonne question. En effet, pendant des siècles, le parfum était considéré comme un produit sacré, magique, et il a été doté de pouvoirs extraordinaires. Et aujourd'hui, on a oublié ça. C'est vrai que la publicité parle du parfum, mais dans un but commercial. Et les usages sacrés du parfum sont beaucoup plus restreints que dans le passé. Et le parfum était considéré comme un produit sacré parce que pour les Égyptiens de l'Égypte pharaonique, le parfum était identifié à la sueur des dieux. Les premiers chrétiens ont identifié le parfum au sang du Christ. Et comme le parfum avait des origines divines, on l'a doté pendant des siècles de pouvoirs extraordinaires. Notamment, pour les Égyptiens de l'Égypte pharaonique, le parfum était très utilisé dans les pratiques d'embaumement pour faire du défunt un parfumé, c'est-à-dire un dieu, et lui permettre d'accéder à la vie éternelle. Donc là, la fonction du parfum était capitale, parce que, comme on le sait très bien aujourd'hui, les Égyptiens de l'époque pharaonique accordaient une grande importance au rituel d'embaumement pour pouvoir s'assurer une vie éternelle. Et donc le parfum avait donc cette fonction-là qui était essentielle, préserver le corps pour accéder à la vie éternelle, honorer les dieux et aussi soigner. Un des plus célèbres parfums égyptiens, le kifi, le parfum deux fois bon, servait à honorer les dieux, mais aussi à soigner les maladies intestinales et hépatiques. Il servait aussi à détendre, à euphoriser lorsqu'on respirait ce parfum, qui était un très très beau parfum à base de fleurs de genêt, de souchet, c'est un rhizome le souchet, un rhizome qui a une odeur de violette et de gingembre, de résine de térébinthe, de roseau odorant, de jonc odorant, de myrrhe. La myrrhe c'est une gomme résine qui s'écoule du myrrhier qui pousse au Yémen, de miel. Donc ce fameux kifi servait aussi, quand on le respirait, à détendre et à rendre euphorique sans les effets de l'ivresse. C'est un parfum qui, pensait-on à l'époque, avait un effet sur l'humeur. Et aujourd'hui, à notre époque, on crée des parfums pour vitaliser, énergiser, détendre, rendre plus gai, des parfums que l'on appelle aromacologiques. Mais les Égyptiens de l'époque pharaonique avaient déjà réalisé un parfum pour agir sur l'humeur.
Et du temps donc des Égyptiens, la fonction principale était celle de l'embaumement ?
Celle de l'embaumement, d'honorer les dieux, une fonction médicale du parfum avec ce fameux kifi. Et aussi évidemment les Égyptiens et les Égyptiennes utilisaient le parfum pour s'embellir, pour séduire. Les sages égyptiens disaient au mari, offre des parfums à ta femme, ce sont les meilleurs des soins pour son corps. Chez les Égyptiens de cette époque, toutes les fonctions du parfum étaient représentées. Honorer les dieux, diviniser les morts, embellir les femmes, embellir la vie. Vous voyez, donc il y avait toutes ces fonctions.
Mais ces Égyptiens, qu'est-ce que cela représentait au niveau commercial? Est-ce que c'était une activité importante? Est-ce qu'elle était dirigée par un corps, comme après on a vu les parfumeurs, apothicaires, épiciers? Puisque les Égyptiens ont armé des flottes pour aller rechercher les ingrédients, si on peut les appeler ainsi.
Alors, les premiers parfumeurs étaient des prêtres. C'était eux qui réalisaient les parfums sacrés qui servaient à honorer les dieux et à diviniser les morts. Et ensuite, les Égyptiennes se sont préparées des parfums
Mais quand vous dites qu'ils étaient donc par des prêtres, est-ce que cela signifie que le commun des mortels n'avait pas accès aux parfums, qui étaient réservés à une caste?
Au départ, le commun des mortels n'avait pas accès à des parfums. Les premiers usages du parfum ont été des usages sacrés, et par la suite, ces usages sont devenus profanes. Alors, il y a des spécialistes qui se sont mis en place et qui ont aussi, après, fait des parfums pour des usages profanes. Mais les véritables parfumeurs apparaissent, en fait, avec les Grecs et les Romains. Les Grecs avaient des parfumeurs, une organisation professionnelle, les bouilleurs d'onguents. Donc ça, c'était déjà l'apparition de véritables parfumeurs pour des usages profanes. Et à Rome, il y avait un quartier qui était réservé aux parfumeurs. Et les parfumeurs avaient des boutiques qui étaient fréquentées par les aristocrates, par les gens élégants.
Mais en tant que parfumeur.
On allait chez le parfumeur, oui.
Puisqu'il y a un rapport, vous expliquez dans votre livre, par exemple, le rapport entre le parfum, l'utilisation des végétaux et la médecine. Oui. Et vous citez qu'Hippocrate, par exemple, était venu suivre, si l'on peut dire, comme on dit aujourd'hui, un stage auprès de médecins égyptiens qui travaillaient.
Exactement. Alors, les parfumeurs romains ne faisaient que des parfums pour l'élégance, vous voyez. Mais c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, que le parfum, même chez les Romains, a continué aussi à avoir une vocation médicale. On se servait des plantes aromatiques pour soigner des maladies.
Mais c'est un rapport qui a...
Qui a perduré jusqu'en 1810, parce que c'est Napoléon, pourtant un grand utilisateur d'eau de Cologne. Napoléon utilisait l'eau de Cologne pour sa toilette, pour sentir bon, mais aussi il utilisait l'eau de Cologne pour se prémunir des maladies. Et avant de livrer bataille, il s'aspergeait d'eau de Cologne, parce que l'eau de Cologne était censée avoir de grandes vertus médicales. Il s'aspergeait d'eau de Cologne et même se faisait des canards farina, c'est-à-dire qu'il trempait des morceaux de sucre dans l'eau de Cologne qu'il avalait, parce qu'il pensait que c'était bon pour sa santé. Alors, Napoléon était un grand utilisateur d'eau de Cologne, et lorsqu'il a été exilé à Sainte-Hélène, il n'avait plus son eau de Cologne, et son fidèle Mamelouk lui a même reconstitué, avec des ingrédients qu'il avait trouvés sur place, une eau de Cologne pour que l'empereur soit un peu moins malheureux. Donc, Napoléon donc, considérait que l'eau de Cologne avait des vertus médicinales, mais il a été à l'origine de la séparation de la pharmacie et de la parfumerie. En 1810.
Est-ce que c'était sous la pression du corps médical?
Non, c'était pour que les consommateurs ne soient pas abusés par des charlatans. Et donc la pharmacie et la parfumerie qui avaient été en fait jointes pendant des siècles ont commencé véritablement là à se séparer. Et la pharmacie a été une activité... la parfumerie a été une activité très éclatée pendant très longtemps parce que les épiciers, les apothicaires, les merciers, les gantiers faisaient des parfums.
Il y avait quand même une différence de catégorie puisque je crois que le roi avait son parfumeur.
Alors, Louis XIV, en 1614, a donné l'autorisation aux gantiers de se nommer parfumeur. Et il a donné des statuts à la profession de gantier parfumeur. Et là, la profession de parfumeur va commencer à s'autonomiser véritablement. Et ça va permettre justement le développement de la parfumerie en France. Les gantiers parfumeurs vont être les seuls autorisés à faire des parfums et à vendre des parfums. Ce ne sont plus les épiciers qui peuvent faire des parfums. Ce ne sont plus non plus les merciers, vous voyez. Et donc, il fallait faire 4 ans d'études et 3 ans de compagnonnage pour devenir maître gantier parfumeur. Et Louis XIV avait en effet un parfumeur, le fameux Martial, qui lui faisait des parfums. Louis XIV aimait énormément les parfums. Il en a beaucoup senti, beaucoup porté. Il en a beaucoup porté parce qu'il vivait aussi à une époque où on faisait sa toilette avec des parfums, où on avait encore peur de l'eau. Car depuis la grande peste de 1348, les médecins conseillaient aux gens de ne plus utiliser de l'eau pour se laver. Ils pensaient que l'eau ouvrait les pores de la peau et laissait pénétrer l'air pestilent qui corrompait les organes. Donc ils recommandaient aux gens de se laver en utilisant des poudres parfumées ou en s'aspergeant de parfums. Et Louis XIV n'a pris que 2 bains dans sa vie, c'était des bains thérapeutiques, et utilisait pour sa toilette les parfums et le linge blanc. Il changeait de chemise plusieurs fois par jour, parce qu'on pensait à cette époque que le linge blanc absorbait la crasse. On se nettoyait par le linge blanc et les parfums. Et le retour du bain dans la toilette va arriver dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc de 1348 à la seconde partie du XVIIIe siècle, les parfums vont avoir aussi un rôle très important dans la toilette.
Et est-ce que ce n'est pas paradoxal, cette obsession de la propreté, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, donc la propreté corporelle, alors qu'ils étaient, notamment au Louvre, entourés d'immondices, si l'on peut le
dire. Ils étaient entourés d'immondices, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... À l'époque de Louis XIV, il n'y avait pas de toilettes, et les courtisans se soulageaient derrière les tapisseries, derrière les fauteuils, dans les jardins, et Versailles sentait très très mauvais, mais les contemporains de Louis XIV étaient obsédés par la propreté, mais c'était une propreté interne. Pour se nettoyer, alors on s'aspergeait de parfums, on portait, lorsqu'on en avait les moyens, des chemises de linge blanc, et on se purgeait et on se saignait. La propreté était conçue comme une purification interne. La duchesse d'Orléans, la princesse Palatine, s'est plainte de ces saignées à répétition qui la laissaient complètement exsangue et qui l'affaiblissaient énormément. Et Louis XIV détestait les saignées, mais il devait s'y soumettre comme les autres personnes de la cour, parce que les médecins de cette époque recommandaient vivement la saignée et la purgation.
Nous parlions tout à l'heure, Annick Le Guérer, de l'ambiance à Versailles. Il y a eu des périodes différentes qui dépendaient bien sûr de l'histoire, de la société, puisque les Romains, vous nous avez parlé des Égyptiens, donc toute cette partie du sacré. Ensuite, les Romains ont aussi largement abusé.
Abusé des parfums, oui.
Ce qui posait même des problèmes au niveau économique, puisqu'ils trouvaient que dépensaient trop d'argent pour le luxe, mais enfin, c'est une chose qui est connue.
Pline l'Ancien, déplorait que Rome importe autant de produits aromatiques de Chine, d'Arabie, d'Inde, et voyait dans le parfum une menace pour l'Empire, parce que même les soldats commençaient à se parfumer. Ils portaient du parfum sous leur casque, ils parfumaient leurs étendards. À Rome, on parfumait même les chevaux, les chiens. Néron parfumait ses salles de bain. Et donc, il y avait un usage extrême du parfum. Pline considérait que le parfum menaçait la virilité de l'Empire. Et que ce qui avait fait la force de Rome, c'était l'austérité, le courage physique, et que le parfum amollissait un peu la population masculine.
Mais le but n'était peut-être pas uniquement de sentir bon. Est-ce qu'il était lié à une certaine superstition, par exemple, pour les batailles, ou est-ce que c'était simplement un souci d'apparence ?
Chez les Romains, c'était pas la superstition, c'était le désir, en effet, de sentir bon, et il n'y avait pas cette volonté d'enrayer les menaces en portant du parfum.
Alors, vous parliez de virilité un instant. Est-ce que le parfum, puisque ça a toujours été associé, est-ce qu'il était aussi utilisé ou vanté pour son aspect aphrodisiaque, puisqu'on a parlé de médecine ?
Chez les Romains, il y avait des préparations à base de castoreum. Le castoreum est une sécrétion qui vient du castor. Et cette sécrétion était introduite dans certaines formules de composition parfumée, et ça avait une tonalité, ces parfums avaient une tonalité un peu magique et médicinale. Mais les Romains, dans l'ensemble, n'ont pas utilisé de produits animaux comme l'ambre, le musc, la civette. Ces produits animaux vont être incorporés aux formules à partir du Moyen Âge. parce que ce sont les contacts avec la civilisation arabe qui va permettre à l'Occident de connaître le musc, l'ambre, la civette. Le musc, c'est une sécrétion qui vient du chevrotin porte-musc, un animal qui vit au Tibet, en Afghanistan, dans l'Himalaya, excusez-moi, et le chevrotin porte-musc a une glande entre le nombril et les organes génitaux qui sécrète une sécrétion, et cette sécrétion est très très recherchée par les parfumeurs. Aujourd'hui, depuis 1973, on n'a plus le droit d'importer de musc parce qu'on a abattu trop de chevrotin porte-musc, parce qu'il faut tuer l'animal pour se procurer cette sécrétion, mais le musc a fait le succès de parfums très très célèbres comme l'heure bleue de Guerlain et beaucoup d'autres parfums, mais c'est un des produits les plus coûteux de la parfumerie, le musc. Même chose pour l'ambre. L'ambre est un produit animal sécrété par le cachalot, expulsé par le cachalot. Lorsque les parois intestinales du cachalot sont blessées par les becs des calmars géants qu'il absorbe, les parois intestinales sont blessées et elles sécrètent une substance pour la cicatrisation. Et cette substance forme un bloc dans les intestins qui est expulsé. Et l'ambre est expulsée en pleine mer, on la trouve aussi sur les plages. Et cette ambre est ramassée et entre dans les parfums. Alors c'est un produit extrêmement coûteux, l'ambre, qui est de moins en moins utilisé parce que trop coûteux. Et puis les collecteurs d'ambre se font plus rares. Et aujourd'hui, il y a très très peu de parfums qui utilisent de l'ambre. Le Chanel numéro 5 en parfum utilise encore de l'ambre, mais beaucoup de parfums qui utilisaient avant de l'ambre n'en utilisent plus, vous voyez, parce que c'est un produit trop coûteux. Et il faudrait aussi, vu l'importance des lancements, il faudrait beaucoup d'ambre. On n'a pas assez d'ambre non plus pour faire face aux demandes des parfumeurs. Alors ça, c'est un produit qui a eu une extrême importance dans la parfumerie, l'ambre. Et le troisième produit très important animal, c'est la civette. La civette est une sécrétion aussi qui provient d'une glande anale du chat civette qui vit en Éthiopie. On n'a pas besoin de tuer l'animal pour se procurer la civette, mais il faut cureter le chat civette. Et sous l'influence des écologistes, les parfumeurs utilisent de moins en moins de civettes parce qu'on a considéré que le curetage des chats civettes était une pratique barbare. Et la civette aussi a disparu, tend à disparaître des parfums. Donc les quatre produits animaux, musc, ambre, civette, castoreum, qui ont fait la gloire de certaines marques de parfums, ont aujourd'hui quasiment disparu de notre parfumerie actuelle. Les produits animaux sont tabous aujourd'hui, vous voyez. Sont tabous parce que là, il y a la pression des écologistes et puis aussi le prix de ces matières.
Alors justement,
le parfum s'est complètement désincarné. Pendant des siècles, le parfum a fait appel aux produits animaux, graisse d'hippopotame, graisse de crocodile chez les Égyptiens. Il a fait appel aussi aux chiens. Il y a eu des préparations aromatiques qui faisaient appel aux chiens au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ces quatre produits animaux là dont je viens de vous parler, musc, ambre, civette, castoreum, ont été très très utilisés, mais aujourd'hui le parfum est complètement désincarné.
Il est désincarné, mais pour éviter d'avoir accès ou d'utiliser ces animaux, on a recours depuis un petit peu moins de deux siècles aux produits de synthèse.
Oui, mais l'odeur n'est pas la même. Le musc naturel, le musc tonkin, a été remplacé par des muscs de synthèse, mais vous interrogerez des parfumeurs, ils vous diront que le musc tonkin, le véritable musc, n'a pas la même odeur. C'est pas la même chose. L'ambre de synthèse n'a pas la même odeur que l'ambre gris, l'ambre naturelle. Voyez donc là, évidemment, on les a remplacés, mais l'odeur n'est pas la même.
Alors vous citez dans votre ouvrage, Le parfum des origines à nos jours, Ernest Beau, qui parle de la synthèse comme ce qui a fait sortir la parfumerie de sa naïveté.
Oui, parce qu'évidemment, avant l'arrivée des produits de synthèse, les parfumeurs ne pouvaient utiliser que des produits qu'ils trouvaient dans la nature. Et la synthèse a permis la réalisation d'odeurs qui n'existaient pas dans la nature, notamment ce qui est utilisé par Ernest Beau dans le numéro 5 de Chanel, les aldéhydes aliphatiques, qui a fait le succès du numéro 5, aldéhydes aliphatiques, donc produits de synthèse alliés à des produits naturels de très belle qualité, la rose de mai, le jasmin gras, l'ylang-ylang. Donc cette alliance de très beaux produits naturels et de produits de synthèse qui avaient une odeur qu'on ne trouvait pas dans la nature a donné à ce produit étonnant qui est toujours encore vendu aujourd'hui et qui est un des parfums les plus vendus dans le monde, alors que le numéro 5 est sorti en 1921. Évidemment, le numéro 5 est toujours vendu aujourd'hui très très bien, mais il est soutenu par des campagnes de publicité très importantes. Hein. Donc on l'aide. Mais évidemment, la synthèse a eu une grande importance parce que les parfumeurs ont pu disposer de notes tout à fait inconnues.
Donc on a trouvé des notes nouvelles.
Des notes nouvelles qu'ils ont pu utiliser dans leur formule de parfum.
Alors, comment le commun des mortels peut-il le comprendre? Par exemple, quand vous citez dans votre ouvrage que le salicylate d'amyl a fait sortir un parfum de la banalité, c'est difficile pour nous d'imaginer dans quel sens.
Oui, parce qu'il lui a donné une tonalité, il a allié à des produits naturels, il a donné justement à la formule une odeur tout à fait inconnue, vous voyez.
De même pour le Nérol, qui apporterait une note de marée et d'huître au jus de citron. Est-ce que cette fragrance n'est pas disponible dans les produits naturels ou par assemblage?
On n'avait jamais réussi à faire des parfums qui avaient une odeur de mer, vous voyez. Et ça, c'est grâce aux produits de synthèse qu'on a réussi à faire ça.
Alors, est-ce qu'il y a une...
C'est un très bon exemple que celui que vous citez. Justement, toute cette vogue de parfums d'odeur marine, aqueuse, on a pu les faire grâce aux produits de synthèse.
Est-ce qu'il y a deux écoles, par exemple, qui, même si elles ne sont pas obligatoirement adverses, l'une qui serait plus apte à utiliser uniquement les produits naturels et une autre qui travaillerait uniquement par moyen de la chimie?
Alors, les parfumeurs ont toujours considéré qu'il fallait les deux, qu'il fallait des produits de synthèse et des produits naturels. Pour des raisons de prix de revient, beaucoup de marques de parfums tendent à utiliser très peu de naturels, parce que les naturels sont dans l'ensemble plus coûteux que les produits de synthèse et plus difficiles quelquefois à se procurer. Quelquefois, évidemment, il y a des récoltes entières de produits naturels qui sont dévastées par un tremblement de terre, par des orages. Donc, le produit naturel, il n'est pas disponible tout le temps.
Mais
alors que le produit de synthèse, oui.
Il y a un des parfumeurs que vous citez dans votre ouvrage qui dit que ce travail, donc, est un pur travail intellectuel. Il n'est pas du tout une recherche que l'on fait d'après les odeurs, d'après différentes fragrances, mais que la conception du parfum se fait d'abord sur le papier.
Alors, Edmond Rudisca, puisque c'est ce grand parfumeur, a voulu justement montrer que le métier de parfumeur ne consistait pas à simplement mettre ensemble des notes parfumées, que c'était un travail intellectuel. Et il a démontré ça en disant que le parfum était d'abord une idée, c'était d'abord un concept, et que le parfumeur, avant de faire un parfum, devait avoir l'idée du parfum. Donc, en disant ça, il cherchait à montrer que le travail du parfumeur était un art abstrait, un travail intellectuel, un travail artistique. Et il disait, de même que Beethoven a été capable de composer la 9e symphonie lorsqu'il était sourd. Un parfumeur exercé doit être capable de composer, de faire un parfum, même s'il a perdu l'usage de l'odorat. Le parfumeur ne travaille pas uniquement avec son nez, mais il travaille avec son cerveau. Et il disait ça pour que la parfumerie bénéficie de la protection intellectuelle et artistique, pour que les créations des parfumeurs puissent être protégées par le droit d'auteur et ne soient pas copiées impunément.
Donc aujourd'hui, on peut breveter une formule.
Aujourd'hui, les créations de parfumerie n'ont pas obtenu la protection du droit, la protection intellectuelle et artistique. Un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2006 leur a refusé cette protection, ce qui désole évidemment beaucoup les parfumeurs. Et donc les créations de parfumerie sont quasiment pas protégées. Voyez, Vera Strubi chez Thierry Mugler a réussi à gagner un procès parce que le parfum Angel qui avait été lancé en 1992 par Thierry Mugler, qui était un parfum très original, c'était le premier oriental gourmand, donc un parfum très sensuel, très capiteux, mais avec des notes de barbapapa, de chocolat. Tout à fait inédite, ce parfum avait été copié par une autre maison de parfum et elle a réussi à faire en sorte que Thierry Mugler gagne le procès et que cette autre maison de parfum ne puisse plus commercialiser l'imitation. Mais ça, c'est l'exemple qui confirme la règle, c'est-à-dire que les créations de parfumerie ne sont dans l'ensemble pas du tout défendues. C'est très très difficile d'attaquer une maison concurrente qui imite un parfum.
Et pourtant, vous dites dans votre ouvrage que l'on arrive dans cette parfumerie actuelle à ce que tous les produits se ressemblent plus ou moins.
Et voilà, c'est, bien sûr, comme les créations de parfumerie ne sont pas protégées, lorsqu'un parfum marche très bien, les maisons concurrentes cherchent à l'imiter.
C'est comme les voitures qui se ressemblent.
Voilà, donc on copie et on commercialise des copies. Mais les femmes ne se laissent pas manipuler comme ça, parce qu'elles achètent un parfum elles entendent des publicités, elles voient des publicités, elles achètent le parfum, mais si le parfum ressemble à celui qu'elles ont déjà acheté, elles le laissent de côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les consommatrices de parfums sont beaucoup moins fidèles que leur mère et que leur grand-mère au parfum. Elles achètent des parfums qu'elles laissent dans un tiroir, elles en rachètent, mais il n'y a plus cette grande fidélité au parfum qui était celle de leur mère et de leur grand-mère, parce qu'il y a trop de parfums qui se ressemblent, trop de parfums qui sont des copies de copies.
Mais qui sont aussi, comme vous l'expliquez dans votre livre, des révélateurs de la société. Je vous laisserai expliquer, mais par exemple, vous citez Opium, qui a été lancé au moment où on avait les problèmes de drogue dans les années 75. Ensuite, Calvin Klein et d'autres. Même dans les titres un petit peu plus violents, comme Fokker qui expliquait, vous dites, le désenchantement.
Oui, parce que le parfum, évidemment, il y a des copies de copies, mais le parfum est un objet historique important. Le parfum est révélateur des sociétés qui le génèrent. Il est révélateur des préoccupations et des valeurs des sociétés.
Il suit ou il précède ?
Il peut précéder. Il peut précéder justement ce qu'on pressent, vous voyez. Par exemple, Opium, qui a été lancé en 1977, était révélateur de la peur de la montée de la drogue. Aujourd'hui, on parle énormément de trafic en drogue, des problèmes de la drogue. Et en 1977, la drogue commençait à s'installer. On n'en était pas au point où nous en sommes aujourd'hui, mais Opium, était déjà dans l'air du temps. Il va y avoir, on va parler beaucoup de la drogue, vous voyez.
Alors sur un autre sujet, disons révélateur de la société, vous citez aussi le bois d'encens qui annonce un retour du religieux. Il l'a annoncé ou il est venu en même temps ?
Il l'a annoncé, parce qu'aujourd'hui, en effet, Je suis allée récemment là, à Notre-Dame de Paris. J'étais tout à fait étonnée de voir que les prêtres brûlaient de l'encens, qu'il y avait des encensements, alors que les encensements avaient disparu des églises. On faisait des encensements au moment des obsèques, mais pas lors des messes. Et il y a donc ce retour de l'encens dans les églises, mais aussi ce retour de l'encens dans les parfums, qui annonce aussi un retour du religieux. Il y a aujourd'hui un retour des préoccupations religieuses mystiques, alors que ces préoccupations avaient été mises de côté ces dernières décennies.
Et cependant, ce retour du religieux, est-ce qu'il maintenant, vous avez une nouvelle fragrance, un nouveau parfum qui annonce, enfin qui collerait particulièrement à la période actuelle ?
À la période actuelle, vous parliez de bois d'encens. En effet, préoccupation de religieuse annoncée. Beaucoup de choses peuvent coller à la période actuelle. Ce retour du religieux est un des aspects, en effet.
Et l'an passé, vous nous aviez parlé de l'odeur qui correspond à l'idée. Je crois que c'était lors d'une exposition où il y avait les odeurs suisses.
Voilà, oui, la Suisse a été le premier pays à faire une exposition sur l'odeur de la Suisse. Et ça, c'était tout à fait extraordinaire. On demandait aux visiteurs, à travers une centaine de parfums, de sentir l'odeur de la Suisse. Odeur de plantes que l'on trouve dans les Alpes, odeur des bonbons Ricola, odeur du chocolat, enfin, toutes sortes d'odeurs, et qui était symbolique de l'identité olfactive de la Suisse.
Et alors, vous terminez votre ouvrage en parlant, ça, je ne crois pas que ça soit dévoilé un secret de conclusion, la nécessité d'une réinvention du parfum.
Oui, parce que le parfum, comme vous le disiez tout à l'heure, a tendance à se banaliser avec ses copies de copies, et puis les marques lancent trop de parfums. L'année dernière, sont sortis 524 parfums, ce qui est énorme. Donc, il n'y a pas dans ces 524 parfums que des créations véritables. Il y a beaucoup de copies de copies, vous voyez. Et donc, certaines maisons de parfums cherchent à réenchanter les consommateurs parce que beaucoup de gens sont déçus par le parfum.
Mais là, nous revenons approximativement aux pratiques de l'époque romaine où il y avait des parfums de grand luxe pour des femmes extrêmement fortunées.
Le foliatum, le parfum des femmes riches et les autres. Mais aujourd'hui,
là, c'est ce que vous montrez, par exemple, à Paris, quand vous citez dans votre ouvrage les grandes maisons qui proposent des consultations parfums qui, évidemment, ne sont pas pour le porte-monnaie de la consommatrice habituelle.
Exactement. Oui, Guerlain propose une consultation de parfum pour cerner les goûts olfactifs de ses clients et leur permettre de mieux choisir un parfum qui leur corresponde.
C'est-à-dire que là, ils le fabriquent, ils préparent un parfum pour la personne en fonction de la consultation.
Ils le font fabriquer. Mais réenchanter le parfum, c'est une volonté justement de faire en sorte que les femmes et les hommes ne soient plus déçus par le parfum. Parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite par une grande société marketing en 2004 qui montrait, une enquête qui a été faite dans plusieurs pays, et qui montrait que les femmes considéraient que le parfum n'était plus un produit qui les faisait rêver.
Donc vous disiez auparavant qu'il y avait 524 parfums qui étaient sortis l'an passé, mais d'un autre côté, vous dites aussi, vous écrivez que le parfum est en crise.
Oui, parce que le parfum est en crise. Le parfum est en crise parce que les femmes, malgré tout, bon, il y a beaucoup de lancements de parfums, mais les femmes en Europe ont tendance à acheter moins de parfums qu'avant.
Les hommes en achètent maintenant.
Oui, mais quand même, le marché marque une pause. Et parce que les gens ont tendance à être déçus par ce qu'ils achètent. Et il y a des marques de parfums qui cherchent justement à réenchanter le consommateur en faisant de très beaux parfums créatifs, qui aient une véritable originalité, qui ne soient pas une copie d'un parfum qui a bien marché.
Mais en fonction de la publicité, à ce moment-là, on achèterait aussi plutôt plus facilement une image, un concept de vie, plutôt qu'une fragrance que nous aurions choisie nous-mêmes en fonction de notre goût.
C'est vrai, et c'est vrai aussi que ces maisons de parfums qui cherchent à réenchanter le consommateur ne font pas de publicité, la plupart. Donc, il faut trouver ces maisons-là. Mon livre les y incite.
Alors, ce livre, oui, Le parfum des origines à nos jours, Annick Le Guérin, qui est chez Odile Jacob, nous pourrions en parler pendant plusieurs heures, puisqu'il fourmille d'anecdotes inouïes, d'ailleurs. Il n'y a pas jusqu'à raconter comment, c'est en Arabie, on devrait peigner certaines chèvres pour récupérer des éléments.
C'est ce que raconte Pline l'Ancien. On récoltait le labdanum sur la barbe des chèvres, parce que les chèvres, en broutant certaines plantes, leur barbe était enduite d'une gomme appelée labdanum.
Alors Annick Le Guérin, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que c'est Le parfum des origines à nos jours, et c'est aux éditions Odile Jacob.
Merci beaucoup.